Question d'islam par Al-Benshir. Aujourd'hui, nous parlons de prophétie, du scellement de la prophétie, de la notion du sceau des prophètes dans la tradition religieuse islamique. Et j'ai plaisir à accueillir l'islamologue Youssouf Sangaré. Youssouf Sangaré, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes islamologue, ça je l'ai dit. Vous êtes aussi docteur en études arabes et vous êtes maître de conférence à l'université de Clermont. Avec vous, nous allons donc passer en revue toute cette notion du scellement de la prophétie. De quoi s'agit-il au juste lorsqu'on parle du sceau des prophètes dans la tradition religieuse islamique?
Alors, pour comprendre en fait cette notion de sceau des prophètes, qui est en fait une expression qui est une traduction qui reprend une expression coranique, qui est cette expression est la suivante, c'est l'expression Khatam Nabiyin, que l'on retrouve en fait dans la sourate 33 du Coran et qu'on traduit comme étant la sourate, c'est la sourate Al-Ahzab, les fractions, les coalisés, les groupes. Et dans cette sourate-là, il y a cette expression qui apparaît. C'est un apax dans le Coran, c'est-à-dire que l'expression sceau des prophètes, Khatam Nabiyyin, on ne la retrouve que dans ce seul passage coranique. Et cette notion-là, en fait, pour la comprendre, il faut d'abord revenir à ce qu'est la prophétie, en fait, dans le discours coranique. On trouve l'idée, selon le Coran, que Dieu a toujours envoyé des prophètes aux humains pour transmettre un message de sa part. Et ces prophètes-là, après, il y a des débats entre les auteurs musulmans pour savoir qui est le premier prophète. Mais quoi qu'il en soit, pour le Coran, des prophètes ont toujours été envoyés aux humains pour transmettre une communication venant de Dieu, pour enseigner les vertus, des vertus aux hommes, pour les montrer la voie. Et à partir de cette notion-là, et les auteurs musulmans aussi reprennent cette idée-là, et ils vont dire que le prophète de l'islam, Mohammed, lui, c'est le dernier de cette chaîne, de cette chaîne de la prophétie, qui commence pour certains depuis Adam, et donc qui s'arrête à Mohammed. Donc c'est le dernier, le sceau des prophètes, c'est lui qui clôt la chaîne de la prophétie. Et donc c'est l'expression, on pourrait la traduire comme ça, en disant que Mohammed c'est le dernier des prophètes selon les auteurs musulmans.
Selon ces auteurs premiers, ces premiers théologiens qui ont compris le terme khatm, le terme arabe comme étant sceau, est-ce que le vocable khatm, khatama, la racine trinitaire, renvoie à la clôture ou renvoie aussi à une prééminence ou à autre chose? Vous nous l'avez dit, le terme est un apax dans le Coran, un apax étant une seule occurrence dans un corpus. Et ce verset 40 de la sourate des coalisés, la sourate 33, est très polysémique. Alors pourquoi a-t-on choisi de le comprendre comme étant un scellement?
Il y a plusieurs raisons à ça, mais d'abord si on revient en fait sur le thème même, sur la racine khatama et l'expression coranée khatam, c'est une expression, ce mot-là, ce terme, c'est un terme, comme vous avez dit, qui est polysémique, puisque à la fois c'est un mot qu'on peut traduire, khatam, qu'on peut traduire par clôture, qu'on peut traduire par le fait de mettre une marque à quelque chose, donc par exemple d'apposer sa signature sur une chose, c'est aussi et khatam dans les premiers siècles de l'islam par exemple, c'est une expression, avant de dire khatam nabiyyin, on trouve des expressions par exemple où certains poètes étaient appelés comme étant de khatam, khatam shu'ara, c'est-à-dire que ça désignait celui qui était qui excellait dans le domaine de la poésie par exemple. Et donc c'est un terme qui est polysémique et qui aussi envoie au fait de la clôture. Par exemple, quand on prend une enveloppe et qu'on ferme l'enveloppe et qu'on met une marque dessus, c'est-à-dire qu'on met le khatam dessus, on met un sceau sur l'enveloppe. Et on trouve aussi d'autres expressions, par exemple dans les textes judéo-chrétiens, où certains auteurs ont fait des rapprochements avec l'expression khatam. Et donc c'est un terme qui est polysémique, qui offre en fait une pluralité de lectures. Mais dans les premiers siècles de l'islam, cette polysémie du terme ne s'est pas imposée dans les interprétations de ce passage coranique. C'est-à-dire que dans les premiers siècles de l'islam, quand il va y avoir, dès la mort du prophète, des débats sur la prophétie, sur la signification même de la mort du prophète de l'islam, l'idée qui va jaillir et qui va s'imposer, c'est cette idée-là que Mohammed, c'est le dernier des prophètes. Et pour justifier en fait cette idée-là que c'est le dernier des prophètes, on va s'appuyer sur cette expression coranique et on va trouver des traditions qui vont valider ce choix-là, de cette lecture-là, de Khatam comme étant la fin, la clôture de la prophétie.
Youssouf Sangaré, vous dites les premiers temps de l'islam, on quantifie cela à 2 siècles, 3 siècles, on est sous l'ère des Abbassides, parce que l'Empire commence à connaître une expansion, et là la notion de la prophétie elle-même commence à s'imposer, peut-être au regard d'autres traditions religieuses, ou à un moment ou à un autre, on considère que la notion du sceau, comme on l'aurait dit même pour un garde des sceaux, en langue arabe on dit « hafid al-akhtem », le garde des sceaux, là la notion du sceau c'est enclos, enferme, il n'y a plus aucune... Le cycle de la prophétie étant finalement arrêté, en quelque sorte, mais là, ça relève plus de la doctrine et ça devient dogmatique qu'autre chose. Si je reprends la parole de Régis Blacher, c'est que ce n'est là qu'un postulat théologique qui devient le fondement d'une doctrine primordiale.
C'est une doctrine qu'on peut comprendre dans un empire musulman qui était en expansion. C'est pour ça que je disais qu'il y avait plusieurs raisons aussi à cette doctrine théologique. Quand les musulmans sont confrontés à d'autres doctrines religieuses, à cette pluralité religieuse, et que ils défendent en fait, en quelque sorte aussi, à la fois leur prophète, son enseignement, et que ils essayent de montrer aussi le statut particulier de Mohammed par rapport aux autres prophètes, on va trouver aussi à travers cette notion-là quelque chose qui va distinguer Mohammed dans la chaîne de la prophétie. Mohammed, finalement, donc c'est quelqu'un qui vient, a une place importante dans la chaîne de la prophétie, puisque c'est celui qui vient mettre fin au cycle de la prophétie. Celui dont l'enseignement va demeurer, en fait, par rapport aux autres, aux prophètes qui l'ont précédé. Mais par exemple, si on revient au premier débat, les premières controverses autour de cette notion, on la trouve dès la mort du prophète de l'islam, parce que dans les sources musulmanes, on nous rapporte que l'épouse du prophète, Aïcha, qu'une fois Aïcha avait entendu des compagnons de Mohammed discuter dans la mosquée et qu'ils lisaient en fait cette sourate-là, la sourate Al-Ahzab, et quand ils sont arrivés au verset 40...
Ahzab, ce sont les coalisés, les groupes ou les fractions.
La sourate des coalisés, donc la sourate 33. Quand ils sont arrivés en fait au verset 40 de cette sourate-là, ils ont lu l'expression « Khatam Nabiyin » et certains ont dit « ça signifie « la Nabiya Ba'dahu ». Ça veut dire que « pas de prophète après Mohammed ». Et les sources musulmanes disent que quand l'épouse du prophète a entendu ça, elle l'a dit « Khulu khatam nabiyin wa la takhulu la nabiyya ba'dahu ». Dites que Mohammed est le sceau des prophètes, dites simplement l'expression mais ne l'interprétez pas. Ne dites pas qu'il n'y a pas de prophète après lui. Et certains auteurs musulmans vont dire que Aïcha ne voulait pas qu'on extrapole, on fait dire au texte coranique ce qu'il ne dit pas, puisque c'est un apax dans le Coran, ça signifie que le Coran n'offre pas d'autres interprétations de cette notion-là, donc elle voulait qu'on n'extrapole pas cette notion-là. Mais plus tard, les auteurs musulmans, les théologiens notamment, ne vont pas tenir compte de cet avis-là, ils vont prendre cette notion-là, ils vont dire que ça signifie qu'il n'y a plus de prophète après Mohammed. Et il y a des raisons aussi à ça, parce que quand l'Empire musulman, dès la mort de Mohammed, certains dans l'Empire islamique se sont déclarés comme étant des prophètes. Il y a eu un phénomène que les sources musulmanes appellent le phénomène des faux prophètes. Et ceux qui se sont déclarés comme étant des prophètes, comment faire pour les réfuter? Et comment faire pour ne pas les suivre? Et même si certains se disaient comme se situaient dans la lignée de Mohammed. On va les réfuter, on va les rejeter, on va lutter contre eux, on va les combattre à travers aussi cette expression coranique, à travers cette doctrine. C'est aussi une doctrine qui permettait de rejeter ces personnes qui se déclaraient comme étant des prophètes.
Donc on voit là, Youssouf Sangaré, qu'à partir d'un verset équivoque, ambigu, non explicite, et qui n'apparaît qu'une seule fois, sous cette cette appellation-là de Khatm al-Nabiyyin, le sceau des prophètes ou sceau des prophètes, que pour des raisons à la fois de rejet les faux prophètes qui ont pullulé à la mort de Mohammed, il y a donc une interprétation voulue, donc une contraction de sens uniquement pour dire qu'il y a une clôture, auquel cas il n'y a plus, ça s'est imposé comme quoi il n'y a pas d'autre prophète que lui, et ce n'est qu'une interprétation voulue de la part des théologiens.
Pas seulement, il y a aussi, par exemple, pour les califes aussi, notamment à l'époque des Abbassides, il y a des califes qui ont mis à mort un certain nombre d'auteurs parce qu'ils disaient, par exemple, qu'il peut y avoir des prophètes après Mohammed, mais on comprend quand on est, par exemple, un calife, donc quand on a un pouvoir politique et religieux, on peut comprendre si quelqu'un se déclare comme étant prophète, donc successeur de Mohammed, un calife, en quelque sorte, il est invité. Si ce personnage-là est reconnu comme étant un vrai prophète, le calife sera appelé à laisser sa place, en tout cas à céder une partie de son pouvoir à ce personnage-là. Donc les califes aussi étaient intéressés par la lutte contre les faux prophètes. Raison pour laquelle, sous des califats abbassides, y compris à l'époque d'Al-Ma'mun, il y a eu des interrogatoires de personnages qui se déclaraient comme étant des prophètes, et on va rejeter, on va les condamner, on va les interroger, en sortant toujours ce passage coranique-là en disant « mais il ne peut pas y avoir de prophète après Mohammed, donc vous êtes un faux prophète ». Et certains ont été condamnés, d'autres ont été crucifiés dans les premiers siècles de l'islam, et notamment au 8e siècle par exemple.
Oui, ils étaient crucifiés parce que le supplice à l'époque prévalait dans cette région du monde et jusqu'au 8e siècle était la crucifixion. Et puis pour l'anecdote, il y a Sajah qui est une prophétesse, a voulu jouer sur les termes en disant certes dans le verset coranique il est dit qu'il est le sceau des prophètes au masculin, mais il n'est pas dit qu'il est le sceau des prophétesses au féminin, donc moi je peux me proclamer comme prophétesse.
Là par exemple, c'est aussi des éléments que l'on trouve dans les premiers siècles de l'islam, où certains ont essayé de sortir de cette lecture-là, de cette doctrine-là, pour essayer d'offrir d'autres interprétations, et notamment là, la différence entre le masculin et le féminin. Il y a un récit sur ça qu'on trouve à l'époque du calife Al-Ma'mun, donc il a régné de 813 à 833. Al-Ma'mun, par exemple, dans ce cas-là, quand il interroge une femme qui s'est déclarée comme étant prophétesse, qu'elle va dire ça, que si le prophète a dit qu'il n'y a pas de prophète après lui, ça veut dire qu'il n'y a pas un homme, il n'y a pas le masculin ne peut plus être prophète, mais il n'a pas dit qu'une femme ne peut plus être prophète. Et Al-Ma'mun a dit que lui, il n'avait pas d'argument à opposer à la femme pour ça. Et il a dit, bon, il faut la laisser partir. Et ça, par exemple, ça dit quelque chose, par exemple, des premiers siècles de l'islam, notamment à l'époque d'Al-Ma'mun, où on considérait qu'une femme pouvait être prophétesse. Alors que plus tard, dans la théologie musulmane, les discussions ou ce qui va s'imposer, l'idée majoritaire qui va s'imposer, c'est l'idée que il va y avoir des débats sur le fait de savoir est-ce qu'une femme peut être prophétesse ou pas. La majorité va dire que non, les prophètes sont d'abord des hommes. Et là, on va utiliser un certain nombre de terminologies coraniques pour valider cette idée-là. Mais rien que ce type de récit, ça donne aussi des indications sur l'état en fait de la théologie musulmane, où un calife pouvait accepter l'idée que une femme pouvait être prophétesse, pourquoi pas.
Parce que peut-être qu'il ne voyait pas de danger si elle devait être reconnue comme prophétesse, lui tout calife puissant, ou du moins il a dû simplement reconnaître que devant son argument il n'y a rien à dire. Parce que l'histoire ne nous dit pas qu'est-ce qu'il est advenu de cette prophétesse.
Oui, c'est ça. Ce que finalement, on ne sait pas ce qui est advenu de ça. Et Al-Ma'mun, en fait, il est là aussi, c'est un acte politique parce que c'est une femme qui était isolée, donc la femme qui s'est déclarée comme prophétesse, Fatima Nabiya, Fatima la prophétesse. Et Al-Ma'mun va la laisser partir parce qu'elle était isolée, il n'y avait personne, elle n'avait pas de public avec elle. Donc, elle ne représentait pas une menace pour le calife. Par contre, ce ne fut pas le cas de ceux qui se sont déclarés comme étant des prophètes et qui avaient des fidèles derrière eux. Par exemple, au 8e siècle, sous les Omeyyades, un érudit en fait à Damas, qui avait des fidèles avec lui, qui était considéré comme étant un savant dans les hadiths, dans les traditions prophétiques, avait dit en fait à ses étudiants qu'il y a un hadith qui dit « pas de prophète après Mohammed ». Lui, il dit « non, c'est un hadith qu'il faut lire en disant « pas de prophète après Mohammed, sauf si Dieu le veut ». Donc, si Dieu change d'avis, il peut envoyer un autre prophète. Et cet homme-là, qu'on appelle Mohammed al-Shami, a été crucifié sur ordre du calife, parce que on a dit qu'il a fait introduire ici une formule d'exception qu'il ne faut pas mettre là. Parce que si on dit il peut y avoir un prophète après Mohammed, si Dieu le veut, ça veut dire qu'on laisse la porte ouverte à cette possibilité-là. Et le calife, qui était contesté dans son pouvoir, va en fait ordonner sa crucifixion et qui va être un exemple pour toutes les personnes qui essayent de prétendre à la prophétie après Mohammed.
Alors, ce qui est étonnant, Youssouf Sangaré, c'est que même dans les traductions françaises, quasiment, je le dis sous votre contrôle, le quasiment, tous les traducteurs n'ont pas dit le dernier des prophètes, on dit le sceau. On a la traduction de Kazimierski, déjà, dès le milieu du 19e siècle, qui dit « Mohammed n'est le père d'aucun de vous, il est l'envoyé de Dieu et le sceau des prophètes, Dieu connaît tout ». Si on revient à une période encore plus récente, on a Jacques Berck qui dit « Mohammed n'est pas le père d'aucun de vos mâles, mais l'envoyé de Dieu, le sceau des prophètes, Dieu de toutes choses est connaissant ». Et on a Hamza Boubaker qui dit « Mohammed n'est le père d'aucun des vôtres, mais il est l'envoyé de Dieu et le sceau des prophètes, Dieu est omniscient ». Je peux encore citer d'autres traducteurs, notamment la traductrice Denise Masson. Elle dit « Mohammed n'est le père d'aucun homme parmi vous, mais il est le prophète de Dieu, le sceau des prophètes, Dieu connaît parfaitement toutes choses ». Tous garde le terme « sceau », mais qui n'induit pas nécessairement qu'il est le dernier.
Pour les traducteurs, on trouve justement le fait de garder ce terme de « sceau », et d'ailleurs qui fait que aussi en arabe, c'est aussi préférable de garder ce terme-là « khatam nabiyin », parce que le terme « khatam », ça offre en fait cette pluralité de lecture, et qui d'ailleurs, des penseurs musulmans aujourd'hui essayent de mettre ça en évidence. Mais il y a les traductions du Coran, après il y a la doctrine en fait qui s'est imposée en islam, qui est que Mohammed c'est le dernier des prophètes. Et cette doctrine-là, elle s'est imposée. Moi, dans ma thèse de doctorat, j'ai dit à partir du 10e siècle, en reprenant en fait les travaux de certains autres chercheurs, donc au 10e siècle, c'est une doctrine qui va s'imposer et comme étant l'idée qu'il ne peut plus y avoir de prophète après Mohammed et que toute personne qui va prétendre la prophétie après Mohammed est un faux prophète, est un imposteur qu'il faut tuer. On trouve clairement dans les tafsirs et chez les auteurs musulmans des indications sur ça, donc ce rejet de toute prétention à la prophétie après Mohammed.
Et le tafsir étant une sorte de commentaire, d'exégèse, d'explication de texte. Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons du scellement de la prophétie avec cet axiome, ce postulat de base qui est devenu au centre d'une doctrine non négociable quasiment, qui est le prophète de l'islam, Mohammed, est le dernier. Youssouf Sangaré, quelles sont les conséquences à la fois politiques et religieuses de ce dogme, finalement? Ça a été érigé au rang d'un dogme indépassable.
Par exemple, pour illustrer les conséquences, on peut par exemple revenir à un auteur musulman, Al-Ghazali, qui est mort en 1111, Et dans un de ses livres, il va en fait, il revient sur cette expression-là et sur cette doctrine-là. Ce livre-là, c'est « Al-Iqtisad fil Irtiqad », la modération en matière de doctrine. Et dans ce livre-là, l'auteur, en fait, il s'interroge sur le fait de savoir est-ce que un musulman peut excommunier un autre musulman. Et si oui, sous quelles conditions? Et par exemple, il va prendre, donc il fait un certain nombre d'hypothèses, et l'idée en fait de son livre, c'est d'appeler à la modération en matière religieuse, d'éviter de s'excommunier les uns les autres. Donc c'est ça l'idée globale de son ouvrage. Et dans ce cadre-là, par exemple, il va faire l'hypothèse, il va dire, si un musulman décidait de dire qu'il ne croit pas au fait que Mohammed c'est le dernier des prophètes, Al-Ghazali dit, est-ce qu'on a le droit de l'excommunier ou pas? Et lui, il va dire, en fait, il faut laisser cette question-là. Il va dire, en réalité, on n'a pas le droit de l'excommunier. Pourquoi? Parce qu'il va dire que si on sort de la doctrine, l'expression coranique, khatam, est une expression qui est polysémique. Lui, il va dire, par exemple, que c'est une expression, khatam nabiyyin, on peut dire que ça signifie que Mohammed, c'est le plus grand des prophètes. C'est le prophète qui a le plus de mérite. Que l'expression coranique veut dire ça. On peut la lire dans ce sens-là. Lui, il va dire, c'est une expression, puisqu'elle est polysémique, toute expression coranique qui est polysémique, on peut l'interpréter de manière rationnelle. Et si un musulman fait une interprétation rationnelle des passages coraniques, on ne doit pas l'excommunier parce qu'il use là de quelque chose que Dieu lui a donné. Mais Al-Ghazali lui-même en disant ça, il va être certains vont l'excommunier en disant que on peut pas permettre une interprétation plurielle de ce passage coranique parce que ça pourrait laisser passer l'idée que il peut y avoir un autre prophète après Mohammed. Donc c'est là la conséquence en fait, les conséquences sur le plan religieux et la conséquence elle se trouve ici. C'est-à-dire que puisque c'est une doctrine qui s'est imposée, le débat est désormais clos sur son interprétation, on peut plus l'interpréter. Et Al-Ghazali en a fait les frais quand il a essayé de l'interpréter de manière rationnelle et en disant qu'il faut pas excommunier un musulman qui l'interprète de manière rationnelle en trouvant d'autres significations que ce qui est diffusé par la doctrine de fin de la prophétie.
Mais ce qui est curieux, Youssouf Sangaré, c'est que lorsqu'il s'agit des poètes et qu'on utilise la même expression « khatm shu'ara », donc le sceau des poètes. Ici, c'est plus une marque de prééminence. Et quand il s'agit des prophètes, et c'est la même expression, quand on dit « khatm nabiyyin », le sceau des prophètes, là, c'est le dernier. Quand vous dites qu'il y a une exégèse plutôt rationnelle, que peut-on opposer à cet argument?
Al-Ghazali lui dit même que c'est un passage que l'on doit interpréter rationnellement et non pas aller se baser sur des hadiths. La raison pour laquelle, par exemple, les hadiths étant les propos qui sont attribués au prophète. Lui, il va refuser de s'appuyer sur ces propos-là qu'on attribue au prophète. Parce qu'il dit, en réalité, les auteurs musulmans ont pu fabriquer là des propos pour essayer de soutenir cette doctrine-là. Lui, il va dire, il faut pas aller dans ce sens-là. Et que, puisque c'est un passage polysémique, donc qui est ambigu, il faut l'interpréter rationnellement. C'est une obligation même. Donc, dans ce cadre-là, il faut éviter toute excommunication uniquement sur la base de cette doctrine-là. Mais si l'on prend aujourd'hui, par exemple, à travers chez un certain nombre de penseurs musulmans, comme par exemple le Pakistanais Mohamed Iqbal, qui est mort en 1938, lui aussi, par exemple, il a essayé d'interpréter ce passage-là de manière rationnelle.
Oui, Youssouf Sangaré, pardonnez-moi, on viendra aux penseurs et théologiens contemporains dans quelques instants, je voulais pas vous interrompre. Là, on est en train de suivre un peu l'évolution de cette doctrine à travers l'histoire et de voir quelles sont ses implications dans le temps. C'est que dans les controverses aussi avec les scolars, les théologiens d'autres traditions religieuses, on parle à la fois de la prééminence du prophète de l'islam, mais aussi du fait qu'il est le dernier et qu'il clôt le cycle de la prophétie.
Puisque Mohammed, c'est le dernier des prophètes qui clôt le cycle de la prophétie, cela donne en fait dans les débats, dans les disputations avec les autres traditions religieuses dans les premiers siècles de l'islam, cela donne, pour les théologiens musulmans, cela donne un avantage aux musulmans. Parce que leur prophète, c'est celui qui vient, c'est celui dont le message finalement est un message qui est éternel. Il ne peut pas y avoir un autre prophète après lui qui, par exemple, va porter un autre discours. Le discours de Mohammed, c'est le dernier discours. C'est en quelque sorte le dernier testament des prophètes. Donc, ça donne une place particulière à Mohammed dans la chaîne de la prophétie. En fait, cette doctrine-là aussi, elle vise aussi à ça. Elle vise aussi à affirmer la place singulière de Mohammed dans la chaîne de la prophétie. Et ça, dans les controverses théologiques des premiers siècles avec les autres traditions religieuses, c'était, pour les théologiens musulmans, c'est un argument de poids. Affirmer, où chacun cherchait en fait à affirmer la singularité de son message, la singularité de la figure religieuse qui apportait ce message-là, cette doctrine-là aussi s'inscrit aussi dans le cadre de ces controverses-là.
On est là dans un argument d'autoréférence qui est celui qui parle le dernier a nécessairement raison.
On trouve par exemple au 9e siècle, chez les auteurs mu'tazilites par exemple, qui sont considérés comme étant des rationalistes, en tout cas c'est les premiers rationalistes, on les considère comme étant ceux qui faisaient en tout cas l'usage de la raison. Au 9e siècle, on trouve chez les auteurs mu'tazilites, j'en parle rapidement dans le livre, qui en fait vont dire que en fait Khatam Nabiyyin, ça veut dire que Mohammed c'est le dernier. Mais pour eux, l'expression Khatam Nabiyyin, ça veut dire que c'est le dernier homme dans un domaine qui fait le bien. C'est-à-dire que c'est le dernier prophète qui a porté le discours du bien, c'est-à-dire le discours de Dieu, donc qui a appelé à la vertu. Mais en fait, ça signifie pas forcément, puisque c'est le dernier prophète qui a porté le discours du bien, le discours d'appel à la vertu, ça ne signifie pas que c'est le dernier qui va porter cela. C'est simplement, à un moment donné, le dernier, celui qui a parlé en dernier sur le bien, qui a appelé les hommes au bien.
Et Youssouf Sangaré, et ceux qui l'interprètent comme étant une caractéristique physique qu'il aurait sur une de ses épaules ou entre les épaules, qui est une excroissance, et ça, c'est aussi un sceau. Il y a cette interprétation.
Donc on trouve cette idée-là, notamment dans les sources musulmanes, qui est que le corps du prophète est aussi un reflet, porte aussi le signe d'authenticité de sa mission. Et notamment, on va dire que le Khatam Nabiyyin, le Khatam, en fait, c'est un sceau que le prophète portait sur une de ses omoplates. Après, il y a des débats entre les musulmans, il y a les débats en fait entre les auteurs pour savoir est-ce que c'était à gauche ou à droite, peu importe, mais en tout cas qu'il aurait porté en fait un sceau sur lui, et que ce sceau-là en fait dans ce cadre-là est interprété comme étant la preuve qu'il était un prophète authentique. Donc ici le Khatam, ça veut dire c'est l'authenticité en fait, le fait que Dieu confirme à travers le corps du prophète qu'il est celui qu'il a choisi pour porter son message en fait. Donc là, le sceau ici, ça devient une attestation divine prouvant la validité, l'authenticité de la mission de Mohammed pour les auteurs musulmans dans ce cadre.
Youssouf Sangaré, quelle est votre compréhension à vous, parce que là, le passage coranique parle du sceau des prophètes et non pas du sceau des messagers de Dieu ou des envoyés de Dieu, puisqu'il y a cette catégorie des prophètes et puis ceux qui, pardonnez-moi le terme, qui auraient un grade supplémentaire, c'est que au-delà de la prophétie, ils sont aussi messagers, dépositaires d'un livre céleste. Et là, l'appellation sceau n'a pas été adaptée ou ne suit pas envoyé, mais plutôt prophète.
Rappelons que dans le Coran, en fait, on trouve différentes expressions pour appeler ce qu'on appelle les prophètes, ce que le Coran considère comme étant envoyé par Dieu pour transmettre un message de sa part. Donc, on trouve l'expression prophète, Nabi. On trouve aussi l'expression Rasoul, Rasoul, les messagers envoyés. On trouve aussi d'autres expressions comme Nazir, avertisseur, Bachir, celui qui annonce la bonne nouvelle, d'autres expressions qui vont dans ce cadre-là. Et d'ailleurs, vous avez raison, parce que il y a des auteurs musulmans comme Al-Ghazali par exemple, il va dire que en fait le Coran dit Khatam Nabiyyin, le sceau des prophètes, mais il ne dit pas le sceau des envoyés. Et Al-Ghazali dit il fait une différence entre les prophètes et les envoyés, il dit en fait les envoyés ont un rang plus élevé à celui des prophètes. Pourquoi? Parce qu'Al-Ghazali dit un envoyé, c'est celui à qui Dieu révèle, Dieu fait une révélation et lui ordonne de le transmettre aux hommes. Et sa révélation là a une force de loi. Alors qu'un prophète, c'est celui à qui Dieu fait une révélation, mais sans lui donner ordre de la transmettre à ses semblables. Et donc c'est en quelque sorte une sorte de révélation privée. avec et qui ne porte pas la dimension de la transmission. Et donc lui il va dire, mais en fait cette expression-là, ça, dans ce cas-là, peut-être qu'il n'y a plus de prophète après Mohammed, mais ça ne signifie pas qu'il ne peut plus y avoir d'envoyé de Rasoul après lui. Et d'ailleurs, c'est pour toutes ces raisons-là que Al-Ghazali après a été condamné aussi pour cette tentative de relecture, d'explication de ce passage coranique, en essayant de faire cette différence-là.
Oui, Youssouf Sangaré, là vous nous parlez d'Al-Ghazali, l'Al-Ghazal des Latins, hein, 1058-1111, et... En dépit de son magistère intellectuel, et c'est un des grands théologiens de la tradition religieuse islamique, il a été ennuyé, si je puis dire, pour ses prises de position. À travers le temps, pour arriver à la période contemporaine, quelles ont été d'autres compréhensions ou explications de cet apax coranique, sourate 33, verset 40?
D'une manière générale, à partir du Xe siècle, on ne trouve pas d'autres lectures qui sortent de la doctrine, que la doctrine du scellement de la prophétie, de fin de la prophétie. Donc l'idée que Mohammed c'est le dernier des prophètes. Et cette doctrine-là va s'imposer, notamment par exemple quand Al-Ghazali est excommunié par d'autres érudits musulmans, cela va aussi rappeler le fait que se risquer à réinterpréter cette notion-là, il y a toujours ce risque-là d'excommunication qui peut rentrer en compte. Donc depuis cette période-là jusqu'au 19e siècle avec l'Égyptien Mohammed Abdou, qui est mort en 1905, on ne trouve pas d'autres tentatives de relecture qui essaie de lire cette doctrine-là autrement.
Alors, la nouveauté avec le 19e siècle, c'est qu'on commence à battre en brèche ce dogme.
En tout cas, on essaye de ne plus rester dans une sorte d'apologie défensive, dans cette idée-là qu'il faut défendre coûte que coûte l'idée que Mohammed c'est le dernier des prophètes. Avec Mohammed Abdou, il va essayer de déplacer le débat sur autre chose. Il va dire que ce qui est le plus important pour le musulman, ce n'est pas finalement de dire que Mohammed c'est le dernier des prophètes, mais c'est d'essayer de comprendre la place singulière de Mohammed dans la prophétie, l'importance du message de Mohammed, et que cette importance-là, cette place singulière-là, soit une implication pour le musulman d'être responsable dans sa vie, en fait d'assumer sa place dans l'histoire. Pour Mohammed Abdou, c'est un peu ça. Dire que Mohammed c'est le dernier des prophètes, c'est très bien, mais ça signifie que celui qui s'engage à suivre sa voie a une responsabilité du coup, doit assumer sa place dans l'histoire, doit prendre toute sa place dans l'histoire. Et Abdou va donc s'appuyer sur cette notion-là pour appeler les musulmans à agir, à essayer de sortir en fait de ce que lui l'appelait à l'époque le taqlid, par exemple le suivisme, et donc à s'engager
ou l'imitation servile,
c'est ça, et donc à s'engager totalement en fait et de ne pas être dans la défensive et simplement à rester à faire l'éloge du prophète, mais il faut en sortir, il faut transformer cet éloge là en action. Voilà un peu l'idée que l'on trouve chez Mohammed Abdou et qui après va être récupérée aussi par certains auteurs musulmans plus tard.
Et il va y avoir la conséquence majeure qui est de ne pas persécuter les adeptes de ceux qui se disent prophètes. Je parle par exemple des Ahmadis et surtout des Bahaïs.
Ça par exemple on peut trouver chez certains auteurs musulmans, mais d'une manière générale, y compris chez des penseurs, par exemple tout à l'heure je parlais du penseur pakistanais Mohamed Iqbal, donc qui est mort en 1938. Iqbal, par exemple, il est, d'une manière générale, ces minorités musulmanes que vous avez citées, d'une manière générale, il y a un rejet quand même de leur relecture de la prophétie. Par exemple, Mohamed Iqbal, il va reprendre la lecture de Mohamed Abdou. Il va dire que Mohamed, c'est le sceau de prophète, c'est très bien, mais ça signifie que désormais, aucun homme n'est esclave du divin. C'est-à-dire que pour Mohamed Iqbal, les prophètes, en fait, c'était des... Dieu a envoyé... Pourquoi Dieu a envoyé les prophètes? Il les a envoyés pour montrer la voie aux hommes. Mais puisque Dieu a, en un moment donné, avec Mohammed, Dieu a jugé que les hommes étaient désormais devenus matures sur le plan de la raison. Ils pouvaient désormais s'assumer rationnellement. Ils pouvaient se guider eux-mêmes. Donc, il n'y avait plus besoin des prophètes. La fin de la prophétie, ça signifie, pour Iqbal, la libération totale de l'homme. L'homme n'est plus sous la coupe du divin. L'homme doit se débrouiller tout seul. Donc lui, il va dire que c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire désormais le règne de la raison, dit Mohamed Iqbal. Et donc, mais dans cette lecture-là, Iqbal, du coup, il va s'opposer à toute personne qui affirme qu'il peut y avoir un prophète après Mohammed. D'où le fait que, par exemple, il va rejeter totalement la Ahmadiyya au Pakistan, qui a vu le jour au 19e siècle, et il va dire que, en fait, toute personne qui réactive la prophétie après Mohammed veut, en fait, c'est une remise sous la coupe du divin, sous la coupe des religieux, de l'humain. Et que, en fait, ça signifie que on remet en cause le fait que l'homme est totalement libre désormais de se guider par la raison. Donc c'est une lecture finalement qui aboutit à la condamnation de ces minorités religieuses que vous avez citées.
Oui, j'entends ce qui me paraît curieux de la part d'un penseur comme Mohamed Iqbal, c'est le fait de justifier, si je puis dire, les persécutions contre des minorités au nom d'une vision qu'on peut appeler, si on suit Marcel Gauchet, de la sortie de la religion, puisque Mohamed Iqbal, dans cette affaire, dit que c'est l'ère de la raison, l'homme n'a plus besoin de se mettre sous la coupe du divin, si je suis vos propos, mais la liberté de conscience qui font que d'aucuns suivent un autre prophète, et en l'occurrence Baha'u'llah, rien ne le justifie aussi du point de vue des droits fondamentaux de la personne humaine.
En fait, on est dans un contexte Iqbal, un contexte où il y a la colonisation britannique de l'Inde, où Iqbal est engagé dans un combat contre cette colonisation et aussi pour la création du Pakistan. Et donc c'est aussi Iqbal, c'est aussi un leader politique. Et lui, il voit en fait dans ces minorités religieuses-là des tentatives de division qui sont perpétrées par le colonisateur en fait pour diviser les musulmans, donc pour disperser les forces. Donc justement, on n'est pas simplement sur une lecture théologique, on est aussi dans sa perception politique de l'émergence de ces groupes-là. Il va dire que en fait c'est le bras armé du colonisateur qui vise en fait à diviser les musulmans, et donc il faut rejeter aussi pour cette raison-là. Et d'ailleurs là c'est une des la condamnation de ces minorités religieuses-là, c'est une des dimensions de la pensée de Mohamed Iqbal qui n'est pas toujours évoquée par les auteurs. Quand on cite Iqbal, on met toujours en avant justement la figure, le poète pakistanais, donc celui qui fait l'éloge de la raison. Mais il y a aussi cette partie obscure de la pensée de Mohamed Iqbal qui est cette condamnation. Et il a écrit des articles très virulents et à l'égard de ces minorités-là parce qu'il les considérait. Là, on n'était plus dans la théologie, on était rentré aussi dans la politique. Il considérait qu'il fallait lutter contre eux parce que c'était aussi un moyen de lutter contre la colonisation. Donc là, la théologie et le politique se rejoignent encore, une fois comme...
Et on est aux premières moitiés du XXe siècle.
أسكر من عبد لنا كل كأس والذي أجرى دموعي عندما عدت من غير سلام ضع على صدري يمناك فما أجدر الماء بإطفاء لك كريم أسكر من عدل لما
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons du scellement de la prophétie. Quelle compréhension doit-on tirer du passage coranique unique, un apax dans tout le corpus? Mohammed est le sceau des prophètes. C'est dans le verset 40 de la sourate 33 avec l'islamologue Youssouf Sangaré, maître de conférence à l'université de Clermont. Pour cette dernière partie, il y a des ouvertures, Youssouf Sangaré, dans le débat actuel chez les théologiens musulmans. Quelqu'un comme Abdelmajid Sharfi, un penseur de renom, qui dit que le scellement de la prophétie, c'est comme si quelqu'un ferme une maison et il est sorti, donc il a la liberté d'aller ailleurs, et d'autres peuvent sceller une porte et rester à l'intérieur de la demeure. Et lui, il enjoint les croyants musulmans à s'ouvrir sur le monde, à aller conquérir le monde par leur raison et de ne pas rester à l'intérieur de la demeure. Ça rappelle un peu ce que disait Mohamed Harkoun, s'affranchir des clôtures dogmatiques.
Ah, absolument. C'est pour Sharfi, donc l'intellectuel tunisien, il se situe en fait dans la lignée de Mohamed Iqbal, donc du Pakistanais, mais aussi de l'Égyptien Mohamed Abdou. Pour Sharfi, en fait, quand cette doctrine-là s'est imposée de fin de la prophétie, cette doctrine-là n'est pas simplement une doctrine qui affirme la place singulière de Mohammed, ça donne aussi un statut particulier aux érudits musulmans. Pourquoi? Parce que quand les érudits musulmans vont dire que Mohammed c'est le dernier des prophètes, l'idée va s'imposer aussi que en fait les savants, les érudits sont les héritiers des prophètes. Et pour Sharfi, en disant ça, en se situant comme étant les héritiers des prophètes, puisqu'il ne peut plus y avoir des prophètes, ça donne un statut particulier à ces érudits-là, un statut particulier à ces savants-là, à leur discours. Donc lui, il va dire que l'idée de fermeture de la prophétie sert aussi les intérêts d'une partie des élites. Et là, l'élite religieuse. Et donc, raison pour laquelle Sharfi va dire qu'il faut sortir de cette sorte d'apologie, qui en fait sert les intérêts de ces érudits-là pour aller vers une lecture du scellement de la prophétie qui est une ouverture au monde. Lui, il va prendre l'idée de Mohamed Iqbal et il va dire que la fin de la prophétie, ça signifie que il peut plus y avoir de prophètes. Ça veut dire que l'homme doit désormais se tourner vers le monde. Il ne doit désormais compter que sur ses propres ressources et notamment sa raison pour explorer le monde, pour expérimenter le monde, pour prendre des risques, pour agir dans le monde. Donc il n'a plus à attendre la guidance divine, il n'a plus à attendre les indications, les directives d'un prophète. Désormais, ça c'est le ressource, c'est sa raison.
Youssouf Sangaré, quand vous avez dit tout à l'heure, conformément d'ailleurs à l'idée, et même c'est un hadith, que les savants sont les héritiers du prophète, et l'expression arabe « khatm al-nabiyyin », donc « sceau des prophètes » ou « khatm al-shu'ara », le sceau des poètes, savez-vous que « khatm al-ulama » existe aussi, le sceau des savants. Et ce n'est pas pour autant qu'on va penser que le savoir est scellé, qu'il ne doit plus y avoir de savants par la suite. Donc là, décidément, c'est clairement une marque de prééminence.
En fait, on est dans cette idée-là, et d'ailleurs cette marque de prééminence, en fait, pour vous dire, quand par exemple on revient au Xe siècle, par exemple chez un des premiers exégètes musulmans et un des premiers commentateurs du Coran, At-Tabari, donc qui est mort en 923, lui, il va donner plusieurs significations à ce passage-là. Il va dire que une des significations, c'est le fait que Mohammed, c'est celui qui vient attester, qui vient valider les messages des prophètes qui l'ont précédé. Donc c'est celui qui vient confirmer. Donc c'est le rôle de confirmation. Et en validant le message des prophètes qui l'ont précédé, ça donne un statut particulier. Ça veut dire que Mohammed a une place singulière puisqu'il vient rappeler ce que les prophètes ont dit. Et d'ailleurs c'est cette idée là aussi donc il a une prééminence. Et c'est une idée que l'on va reprendre par exemple donc à l'époque contemporaine chez un penseur iranien comme Sourouche, qui va dans la même qui est dans la même idée en fait que Mohammed, que Abdelmajid Sharfi. Sourouche, lui, il va dire que en fait cette question de scellement de la prophétie, il faut l'interpréter dans ce sens-là, de la prééminence de Mohammed dans la chaîne de la prophétie. Mais il va dire que même si la prophétie est finie, il faut aussi admettre l'idée que la prophétie est scellée. Et que ce scellement de la prophétie, ça signifie que l'homme doit compter sur lui-même. Et Sourouche, lui, il va dire désormais, ça veut dire que en islam, aucune parole n'est désormais définitive. La parole de l'érudit, on peut la contester. Parce que pour Sourouche, la seule parole qu'on ne conteste pas, c'est la parole du prophète qui se trouve dans le texte coranique. Et puisqu'il ne peut plus y avoir de prophète, toute parole est désormais contestable. Et Sourouche, lui, il va dire que désormais, il faut former une cité musulmane où toutes les paroles sont désormais des paroles collectives. Il faut désormais, l'expérience du divin est désormais une expérience qui doit être collective. On n'a plus à suivre un seul guide qui étaient les prophètes, puisque les prophètes, avec le scellement de la prophétie, il ne peut plus y avoir de prophètes. Et donc désormais, l'expérience du divin, c'est une expérience collective de la vérité, dit Abdelkarim Sourouche.
Abdelkarim Sourouche, oui, c'est le penseur iranien qui vit aux États-Unis. Il est né en 1945. Mais le mais n'est pas une restriction, Youssouf Sangaré. Qu'en est-il finalement, il ne nous reste que quelques minutes avant la fin de l'émission, de la révélation et de l'inspiration, les termes de l'wahi, de ilham, si il n'y a plus de prophétie, dans cette perspective-là de laisser place plutôt à une approche rationnelle des faits, pensez-vous que la révélation et aussi l'inspiration sont-elles taries?
En fait, on peut percevoir le fait que les penseurs musulmans, à partir d'Iqbal ou même de Sourouche, ils essayent de concilier l'idée de fin de la prophétie et de libération de l'homme. Mais en même temps, en disant ça, tous, en fait, ils affirment que ça ne signifie pas la fin du dialogue entre le divin et l'humain, entre le ciel et la terre, pour reprendre une image d'un de ces penseurs-là. Et par exemple, chez Mohamed Iqbal, il va dire que la fin de la prophétie, ça ne veut pas dire que Dieu ne continue pas à communiquer à ses saints. Iqbal, c'est quelqu'un qui s'inscrivait dans le courant soufi. Et donc, il pense qu'il adhère à l'idée qu'il y a des saints à qui Dieu continue de communiquer avec, de s'entretenir avec eux. Et donc, de garder ce lien avec l'humain. Et donc, ces saints-là sont la voie par laquelle Dieu continue de communiquer dans le monde. Mais désormais, la communication avec le saint, ce n'est pas la parole tranchante du prophète qui s'impose à tout homme. Et c'est une parole qui est désormais, les saints sont ceux qui conseillent le monde, dit Abdelkarim Sourouche. La parole désormais des saints, c'est une parole qui conseille le monde. Donc désormais, c'est aux hommes d'analyser ce que les saints, par exemple, disent, et c'est à eux d'en tirer des leçons. Mais ce n'est pas une parole qui s'impose, comme la parole du prophète. Et d'ailleurs, c'est la différence que fait Sourouche entre la parole d'un saint et la parole d'un prophète. Il dit la parole du prophète, c'est une parole qui est normative, ça s'impose aux hommes, ça ne laisse pas le choix, alors que la parole du saint, c'est une parole qui est ouverte à l'interprétation, à être acceptée ou rejetée par les hommes. Donc Dieu continue de communiquer avec les humains à travers les saints, à travers ses fidèles qui ont un statut aussi singulier en islam.
Youssouf Sangaré, pensez-vous que les débats actuels sur le scellement de la prophétie renvoient plus ou moins à ce qui a pu se passer et qui a été rapporté par Paul Hazard dans son ouvrage la crise de la conscience européenne, quand il nous dit que on est passé de Bossuet à Voltaire en l'espace de 35 ans, donc de 1680 à 1715, que mutatis mutandis, le débat actuel met en exergue la crise de la conscience islamique et que là, on va passer de la notion de prophétie vers la libération de l'homme, l'émancipation du sujet humain musulman, et qu'on laisse place plutôt à sa raison, même si elle n'est pas une raison raisonnante, mais une raison ouverte à l'esprit, ouverte à la spiritualité.
C'est exactement l'idée que l'on trouve chez le Pakistanais Fazlur Rahman, donc qui est mort en 1988. Lui, il va dire, en fait, il va prendre aussi cette même idée-là, que la fin de la prophétie, ça signifie l'ouverture à la raison. Lui, il va dire que désormais, les hommes doivent se guider à travers la raison, mais il dit, pour faire ça, ils ont besoin aussi de tenir compte de ce que les prophètes ont dit. Ils ont besoin de s'appuyer sur l'enseignement des prophètes. Parce que, pourquoi? Parce que l'enseignement des prophètes, pour Fazlur Rahman, c'est une expérience humaine. Ça appartient aux humains. Donc, il faut en tenir compte. Il faut s'appuyer sur ce que les prophètes ont dit pour se guider. Et lui, il dit, en fait, il y a une libération sur le plan de la raison. La fin de la prophétie, ça signifie cette libération-là. Et désormais, les hommes, ils doivent pas simplement se libérer sur le plan de la raison, ils doivent aussi s'élever sur le plan de la morale. Et pour ça, pour s'élever sur le plan de la morale et de la vertu, ils ont besoin de l'enseignement, de l'expérience des prophètes dans ce domaine-là, et du discours des prophètes. Et Fazlur Rahman dit, le meilleur discours des prophètes dans ce domaine-là reste l'enseignement coranique, donc reste ce texte, ce discours-là, de cet enseignement du prophète de l'islam, donc du prophète Mohammed.
Merci, merci infiniment, merci Oussou Sangaré de nous avoir instruit sur cette notion du scellement de la prophétie. Chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. Cette émission ainsi que toutes celles de la chaîne est à écouter et à podcaster sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. L'attaché de production est Daphné Abkral. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Clément Daté et la réalisation est assumée par notre ami Franck Lilin. اشفع فينا يا نور العين
يا محمد يا جد الحسنين سألتك بالصحابة اشفع فينا يا نور العين
يا محمد بيك فرحنا
يا محمد بيك فرحنا
بيك سعدنا وبيك ربحنا
بيك سعدنا
اشفع فينا يا نور العين
يا محمد يا جد الحسنين سألتك بالصحابة اشفع فينا يا نور العين
يا سيدي هجد أشواقي
يا سيدي هجد أشواقي
وأذكارك هما رفاقي
وأذكارك هما رفاقي
يا سيدي أشواقي
يا سيدي هاجد أشواقي
وأذكارك هما رفاقي
وأذكارك هما رفاقي
يا منبع الرشد والأخلاق يا منبع الرشد والأخلاق والحق المبين اشفع اشفع فينا يا
في الدنيا والآخرة
اللي زارك مرة ومتع العيني يا محمد اشفع فينا يا
صلى السلام
عليك صلى السلام
والملائكة الكرام
والملائكة الكرام
عليك صلى السلام
عليك صلى السلام
والملائكة الكرام
والملائكة الكرام
كل مسلم هي كلامه كل مسلم يا كلامه تتلى كل حين اشفع اشفع فينا يا نور العين
يا محمد يا شد الحسنين اهدف الصحابة اشفع فينا يا نور العين
اللهم صل علي
اللهم صل علي
اللهم صل علي
اللهم صل علي
صل يا ربي علي
اللهم صل عليه
اشفع في جمع الخطايا
اللهم صل عليه
اشهد اني احب